Romains chapitre 8, 28. Je vais lire dans la Bible Second. Nous savons du reste que toutes choses concourent, travaillent ensemble, coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35 qui nous concerne ce matin. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, pour nos visiteurs, nous sommes dans une série de messages, il y en a quatre, et on est au numéro 3 sur ce passage, cette fin de l'Épître aux Romains. Alors, je prenais l'exemple la semaine dernière de monter sur une haute montagne, regarder le paysage. Et c'est peut-être une expérience que vous avez fait, même si on n'est pas alpiniste, quand même, quand on monte souvent sur une colline, et là, on regarde ce qu'il y a autour, on peut voir à 360 degrés, on a une très belle vision, très beau paysage qui s'offre à nous. Et c'est un petit peu ce que la parole de Dieu nous propose à la fin de Romains chapitre 8. On dit qu'on est sur la pointe de l'Épître aux Romains. Et nous avons pu admirer de là comment l'apôtre Paul, en quelques versets, avait balayé le plan qu'il avait prévu pour de l'éternité passée à l'éternité future en ce qui concerne le monde, sa création et l'humanité. Combien il avait prévu, il y avait un vrai dessein, un vrai plan, la vie que l'on peut vivre a un vrai sens, une vraie destinée. On n'est pas là par hasard et on a vraiment la chance, le chrétien a vraiment la chance d'avoir été d'entrer par Jésus-Christ dans le plan de Dieu. La semaine dernière, on a vu que ce plan de salut, on est à la fin au milieu de l'épître, dans le début de l'épître, on voit ce chemin des ténèbres à la lumière, cette marche, comment le chrétien se voit pécheur, comment il comprend la justification. Par la foi, Dieu a décidé de sacrifier son Fils pour pouvoir lui obtenir le pardon des péchés, chose qu'il ne pouvait absolument pas faire lui-même, et comment il est appelé ensuite à quitter ce péché, cet empire de péché, pour marcher, conduire par l'Esprit jusque dans la gloire, jusque dans la gloire, la marche par l'Esprit. Et le rôle de l'Esprit dans la vie du chrétien est largement exposé dans ce chapitre 8 de Romains. La semaine dernière, donc, nous avons regardé les versets qui concernent l'assurance du salut par rapport à ce que nous sommes ou ce que nous pouvons faire. Certes, il y a des sujets d'accusation. Certes, on trouvera toujours dans nos vies des choses qui ne vont pas. Il n'empêche que Jésus-Christ a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité, c'est quelque chose qui est sûr, qui est historique, et rien ne pourra faire aboutir ces accusations. Hein. Il n'y a plus de maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le petit mot maintenant, c'est maintenant. Hein. C'est Dieu qui justifie. C'est lui qui justifie. Et bien plus que cela, nous pouvons avoir l'assurance que Jésus-Christ intercède pour nous. Et même si nous avons des fois l'impression que nous avons péché, que nous sommes vraiment dans une situation catastrophique par rapport à notre foi, par rapport à notre conversion, par rapport à notre marche, eh bien nous savons, nous pouvons nous accrocher à cette certitude que Jésus-Christ ne nous rejette pas. Bien au contraire, il prie pour nous. Bien au contraire, il prie pour nous. Et l'apôtre conclut donc que voilà, par rapport à ce que nous sommes ou par rapport à ce que nous pouvons faire, ah ben, vraiment, l'assurance du salut est pour les chrétiens à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et maintenant donc, nous allons passer à un autre volet. Est-ce que ce qui est extérieur à nous, est-ce que les situations, les contextes qu'on peut vivre peuvent nous faire déchoir de la grâce? C'est là ce qui nous intéresse aujourd'hui. Paul s'adresse à qui? À ceux qui ont reçu l'Esprit Saint. Romains chapitre 8, verset 9. C'est important de relire ce passage. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et la question clé de toutes ces personnes qui ont été appelées, qui ont été justifiées, sont les personnes qui ont reçu l'Esprit Saint, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est à eux que s'adresse ce texte ce matin. Verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Alors, il y a un mot clé là, c'est le mot séparer. Qui nous séparera? Alors, je vais garder ça pour la semaine prochaine parce qu'il c'est le mot de la séparation qui est utilisé dans la Bible, c'est le mot qui concerne la relation d'un homme et d'une femme dans le mariage. Et donc la semaine prochaine, on verra cet autre volet de ce texte. Est-ce que l'amour entre Jésus-Christ et son Église peut être brisé? On regardera ça la semaine prochaine. On va regarder ce qui concerne notre texte par rapport à ces situations aujourd'hui. Ce que nous sommes ou faisons ne remet pas en cause la grâce reçue en Jésus-Christ, parce que le salut chrétien repose sur l'œuvre de Christ, le serviteur de l'Éternel. Mais les situations difficiles que nous vivons ou que nous pourrions vivre, peuvent-elles nous faire déchoir de la grâce de Dieu, nous la faire perdre, cette grâce de Dieu, parce qu'elles prouveraient, elles nous convaincraient que Dieu nous a abandonnés. Nous avons perdu sa grâce, nous sommes abandonnés de Dieu parce que nous sommes dans une situation catastrophique, terrible, par rapport à la situation où nous trouvons, les circonstances que nous vivons. Parce qu'elle nous amènerait à renier le Seigneur, il y aurait tellement de pression. Ou parce que ces circonstances, ces situations difficiles nous tueraient. On perdrait la vie dedans. Cela mettrait un terme à notre sanctification, en quelque sorte. Et nous serions ainsi séparés de l'amour de Christ. Point d'interrogation. C'est la question, un petit peu, les enjeux qu'il y a derrière cette question de Paul. et il évoque sept situations. Ces situations-là ne relèvent pas de la condition humaine normale. La condition humaine normale, on connaît la souffrance. Tous les êtres humains, depuis la chute, connaissent la souffrance et doivent composer avec. Mais là, il s'agit des conséquences directes de la foi chrétienne. Le Seigneur Jésus a dit qu'il s'agissait de porter sa croix. Et c'est de ces situations-là dont il est question. Elles sont séparées, ces sept situations, par des « ou ». Ou. Et on peut voir une seule de ces situations nous mettre en péril notre foi, ou la totalité, l'addition de toutes ces circonstances défavorables. Et la première, donc, dans notre liste, c'est la détresse, ou la tribulation, le malheur, suivant les traductions de la parole de Dieu. Quand on est pressé ou opprimé, quand on appelle au secours, dans la voiture on a les feux de détresse, on est dans une situation, on allume ce feu de détresse. Attention, au secours, je suis là, faites attention. La deuxième, c'est l'angoisse, l'inquiétude, quand on a une boule dans le ventre, quand on est stressé. La troisième, à cause de Jésus-Christ, la persécution. Être poursuivi partout par quelqu'un ou quelque chose qui nous veut du mal. C'est ça, être persécuté, être poursuivi partout par quelqu'un ou quelque chose qui nous veut du mal. Et ça prend tellement de formes différentes. Maintenant, la persécution se fait même à travers les réseaux sociaux. Et on peut vraiment connaître de grands malheurs aujourd'hui, même sans avoir affaire à des persécutions physiques. La faim, crier famine, avoir faim, ne plus pouvoir se nourrir correctement. C'est le cas de nombre de chrétiens, de nos frères qui sont en prison et qui sont dans la privation. Le dénuement, la dignité, l'extrême pauvreté, la misère, manquer de tout, des situations que l'on peut connaître quand on a décidé de servir le Seigneur. Les dangers, les périls, les risques d'accident, les risques de mauvaises rencontres. Et en septième et dernière position, l'apôtre mentionne l'épée. Alors, il y a deux types d'épées dans la parole de Dieu, et ça, c'est la petite épée ou le grand couteau. C'est celle que utilisent les assassins, celle qu'on porte avec soi. Et donc là, il s'agit vraiment d'avoir affaire à la fée de se faire assassiner, hein. On pourrait dire aujourd'hui d'essuyer des balles, hein. Et c'est le cas de chrétiens, comme, par exemple en Colombie, ceux qui luttent contre les trafiquants de drogue, ils peuvent essuyer des balles, ils peuvent mourir à cause de cela. Donc bien sûr, la réponse de l'apôtre est implicite. Non, on comprend que non. Ces situations terribles ne peuvent pas nous séparer de Christ et de son amour. Mais l'apôtre est-il crédible? Est-ce qu'on peut vraiment le croire? Bien sûr qu'on peut le croire. Moi, j'ai trouvé trois raisons au moins. C'est que Jésus avait averti ses disciples. Vous connaissez les neuf béatitudes du sermon sur la montagne. Et il y a deux de ces béatitudes qui concernent la persécution et commencent par ce mot « heureux ». Heureux serez-vous lorsque on vous persécutera, on vous opprimera, on dira sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Heureux les persécutés, hein, a dit Jésus. Donc Jésus a averti. La parabole du semeur et des terrains, et Jésus a fait mention, vous savez, de ces graines qui tombent dans les endroits pierreux, et elles tombent là, elles poussent rapidement, mais elles n'ont pas de racines. Et dès qu'il le soleil arrive, la chaleur arrive, elles se flétrissent et elles disparaissent. et de dire que c'est ainsi des chrétiens qui n'ont pas de racines ou dont la foi n'est pas bien enracinée. Il va venir des tribulations, il va venir des problèmes, des difficultés à cause de la foi, et elle, leur foi va s'éteindre tout simplement. Et donc un des rôles aussi de ces situations périlleuses à cause de notre foi, ben ça va être de révéler la qualité de cette foi. Est-ce que c'est vraiment une foi authentique, une foi enracinée en Christ? Paul a vécu également ces situations, ces sept situations. On va lire en 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. Paul sait de quoi il parle. 2 Corinthiens 11, 23, 29. C'est une chose de parler de la persécution ou du péril ou de l'épée ou d'avoir faim ou d'être dépouillé de tout, c'est autre chose de l'avoir vécu. Et l'apôtre Paul en parle parce qu'il l'a vécu. 2 Corinthiens 11, 23. Donc là, il est en train de défendre son ministère, son apostolat. Au verset 24. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verges. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. On peut comprendre qu'il a complètement perdu connaissance. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? L'apôtre Paul parlait de ce qu'il connaissait. Et ces situations n'ont rien d'extraordinaire, surtout au premier siècle. Elles faisaient partie de la vie chrétienne normale. Jésus avait clairement prévenu dans la chambre haute ses apôtres, « Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. » En Jean chapitre 15, verset 20, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » 16, 38. Donc, aucune situation ne peut nous faire déchoir de la grâce de Dieu, mais l'apôtre ne parle pas des arguments que je vous ai exposés. Il parle d'autre chose. Il va chercher son argumentation dans le psaume 44, dans notre verset 37. Et c'est le psaume 44 qu'on va regarder maintenant. Verset 36, pardon. C'est le psaume 44 qu'on va lire maintenant. Parce que la parole de Dieu nous conduit vers lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce psaume 44? Il est assez long, mais il se lit facilement. Au chef des chantres des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les éteindre. Il s'agit là de l'installation d'Israël en Canaan. Car ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas par leurs bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est à ta lumière, à la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas dans mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis et qui console ceux qui sont et qui, pardon, confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifierons en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Verset 10. Cependant, tu nous repousses. Tu nous couvres de honte. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie, de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations, de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et qui m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Verset 18, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est pas détourné. Nos pas ne se sont pas éloignés de ton sentier pour que tu nous écrases dans la demeure du chacal, que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, Dieu qui connaît le secret des cœurs? Mais c'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Et le psaume s'arrête là. Alors, dans notre paysage, au bout de notre montagne, il y a ce psaume. Il y a un coin de l'horizon qui est rouge. Qui est rouge comme du sang. Le bain de sang dont il est mention ici est incompréhensible car le peuple de Dieu est fidèle. Et il n'y a pas de délivrance malgré la fidélité. Il n'y a pas de délivrance malgré la fidélité. Est-ce que ces choses-là se sont réellement passées? L'épître aux Hébreux l'affirme, chapitre 11, décrit la situation d'homme de foi du passé. Il y a ceux qui ont obtenu les promesses, qui éteignirent la puissance du feu, qui échappèrent au tranchant de l'épée, qui guérirent des maladies, qui furent vaillants à la guerre, qui mirent en fuite des armées étrangères, des femmes qui recouvrent leur mort par la résurrection, d'autres, verset 11:35, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent la moquerie et le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes, les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, ils n'ont pas obtenu ce qui était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qui ne parviennent pas sans nous à la perfection. Alors d'un côté, il y a le Dieu qui délivre, le Dieu qui délivre Daniel de la fosse aux lions, qui protège ses amis quand ils sont dans la fournaise ardente, qui délivre du temps de Mardochée et de la reine Esther le peuple entier d'un génocide qui était là, qui avait été calculé. Et puis il y a le Dieu qui laisse faire, qui ne délivre pas malgré la fidélité. Que faut-il comprendre ? En toutes ces choses, écrit l'apôtre, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Verset 37. Comment comprendre que malgré les difficultés terribles qu'il peut traverser, le chrétien soit plus que vainqueur, hyper vainqueur, vainqueur au-delà de la victoire. Alors, j'ai réfléchi à tout cela. Je vous propose quelques pistes, modestement. En fait, on peut lire que le Seigneur accorde toujours la délivrance. En Corinthiens 3, 22, il écrit, Paul, « Tout est à vous, soit la vie, soit la mort. La mort est aussi à vous. » Et Paul, en prison, a écrit ainsi aux Philippiens, « Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Le Seigneur accorde toujours la délivrance, soit miraculeusement, en nous envoyant de l'épreuve, en loin de l'épreuve, soit le permettre également par la mort, cette délivrance. On a lu toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein pour qu'ils soient rendus semblables à l'image de Jésus. Et Jésus-Christ a souffert avant d'entrer dans la gloire. Le disciple suit inévitablement le même chemin. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Et Pierre affirme aux chrétiens de la diaspora, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, qu'il vous arrive la même chose que vous souffriez dans la chair. Revenons encore une fois au témoignage de Paul, 2 Corinthiens 4. Versets 8 à 12. Nous portons, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, l'évangile, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous vivons et nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui a exprimé cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. La dimension des choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu peuvent concourir à notre bien, à nous, certes, mais ils peuvent aussi concourir au bien des frères et sœurs qui nous entourent. Et c'est cette dimension-là qu'il faut regarder. À la fin du deuxième siècle, Tertullien s'exprimait ainsi aux persécuteurs de l'Église. Nous devenons même plus nombreux chaque fois que vous venez pour nous moissonner. Et on sait ce que c'était que cette moisson de chrétiens. Et il ajoute, le sang des chrétiens martyrs est une semence, en fait. Heureux serez-vous quand on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Paradoxe. Les situations difficiles à cause de Jésus vont provoquer par le Saint-Esprit une joie incompréhensible qui fait que les persécuteurs sont les grands perdants. Ils voulaient faire du tort et voilà que des gens, par les coups qu'ils assèment, rendent les personnes heureuses, incompréhensibles. Le triomphe de la faiblesse sur la force brutale. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés à travers toutes ces choses dans lesquelles nous sommes conduits à vivre. Alors, quelles applications ? Rapidement, il y a une question qui se pose. Ai-je reçu l'Esprit Saint ? Il y a une autre façon de se poser la même question, c'est est-ce que j'accepte cette vie chrétienne normale ? Ou est-ce que je dis non ? Si je dis non, si je refuse cette vie chrétienne normale faite de potentielles persécutions, c'est certainement que l'Esprit Saint n'est pas en moi. Mais si au contraire je dis Amen, 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 Seigneur, que ta volonté soit faite, est-ce que l'Esprit de Jésus est en train de nous dire maintenant oui, tu es mon enfant, ou bien on entend encore son appel qui dit viens à moi, viens à moi. C'est une question importante, pas vraiment une application, mais des questions importantes. Deuxièmement, il faut nous préparer mentalement à vivre des situations difficiles. Tous les chrétiens doivent faire face à un moment ou à un autre à une situation de rejet. Ce n'est pas eux qui sont rejetés, mais Jésus-Christ. Pour autant, nous ne sommes pas en France, persécutés, mais les choses peuvent changer rapidement. On l'a vu avec l'affaire de l'église de Porte Ouverte qui a été accusée d'avoir disséminé le virus, de coronavirus en France. Tous les chrétiens évangéliques ont été mis dans le sac et c'était une accusation qui était sans fondement. Mais combien ces choses peuvent arriver vite. Porte Ouverte dénonce 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Et ce chiffre augmente d'année en année. Préparons-nous dans notre tête à vivre des situations difficiles. Troisièmement, et là je touche un point délicat, attention à nos options eschatologiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La façon dont nous voyons la fin des temps et le retour du Seigneur. Il y a dans l'Église de Jésus et l'enseignement du prémillénarisme et pré-tribulationnisme qui enseigne que voilà, les chrétiens seront enlevés avant la grande tribulation. Et les détracteurs de cette façon de voir la venue de Jésus disent, ouais, mais ainsi vous ne préparez pas du tout les chrétiens à la persécution. Alors, Paul ici avait le psaume 44, avertit l'église de Rome de la possibilité d'un génocide. Et ce génocide y voit avoir lieu 10 ans après, lorsque Néron va leur faire porter le chapeau de l'incendie de Rome. Ça va être le début d'une longue période de persécution. 10 ans, c'est à la fois long et à la fois court. Alors, le chrétien est quand même dans les rangs du camp qui gagne, hein. Alors, il faut y rester. Mais les temps que nous vivons sont pas bons. L'opinion des chrétiens dans l'opinion publique descend, diminue. C'est pas du tout comme il y a quelques dizaines d'années. Et on perd du terrain dans le domaine des idées, parce qu'il n'y a plus de débat d'idées. On assiste à la destruction méthodique des acquis de la civilisation judéo-chrétienne, pierre après pierre, qui sont démontés comme les années passent. Alors, la cote du christianisme baisse. Le chrétien est cependant toujours celui qui sort vainqueur à la fin. Alors courage, n'ayons pas peur de nos convictions, n'ayons pas honte de la parole de Dieu, de ce qu'elle nous enseigne et de ce qu'elle nous apporte à nous et du message qu'elle porte pour l'humanité entière. Nous sommes dans le camp de ceux qui gagnent, restons-y, dans le camp des plus que vainqueurs. Et bien sûr, il ne s'agit pas, cinquièmement, de chercher des problèmes. On est hors jeu si on cherche soi-même à se faire haïr, hein. Et notre frère a témoigné tout à l'heure, il cherchait pas du tout cela. Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes, recommandera Paul un petit peu plus loin au chapitre 12, verset 18. Ceux, en effet, qui nous accusent doivent être confondus à la fin à cause de notre conduite. C'est l'apôtre Pierre qui donne ses recommandations au chapitre 3, verset 16. Alors, on peut prier que le Seigneur nous mette, enlève la peur de la persécution, qu'il nous fortifie avec ces histoires. On n'aime pas souffrir, on n'aime pas souffrir. Et souffrir de façon injuste, c'est pas naturel, c'est pas... Ça nous conduit à la colère quelque part, et il faut savoir canaliser cela pour que le Seigneur puisse l'utiliser pour sa gloire. On va chanter le chant plus que vainqueur après. Je vais prier peut-être d'abord. Seigneur, merci pour ta parole. Combien nous sommes petits. Combien nous sommes petits devant tous ces chrétiens qui nous ont précédés et qui ont été fidèles jusqu'au bout. Quel exemple. Nous savons, Seigneur, que c'est ton œuvre, c'est toi qui les as portés et que tu pourvoiras aussi à nous si la persécution doit venir. Tu pourvoiras pour que nous tenions ferme et que nous rendions gloire. Seigneur, enlève de nous la peur de prendre des coups à tous les sens du terme pour le nom de Jésus. Forge, Seigneur, nous un caractère éprouvé et que nous soyons d'accord pour suivre Jésus sur le chemin de la croix. Ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie du contrat, ça fait partie de l'engagement chrétien. Et c'est toi qui mets ces choses-là dans notre cœur, qui mets cet amour pour le Seigneur qui est plus grand et plus fort que tout cela. Merci, Seigneur, de nous garder jusqu'à la fin. Merci pour tes promesses. Merci pour les témoignages qui nous arrivent de tant d'endroits différents par rapport à ceux qui souffrent et par rapport à ceux qui obtiennent également. Merci pour cette victoire qui va au-delà de la victoire. C'est incompréhensible pour le monde, mais c'est compréhensible pour nous. Et nous te prions, Seigneur, que ton œuvre s'accomplisse et que ton plan aille jusqu'au bout, selon tout ce que tu as promis et prévu. Amen.